Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Une production Binge Audio, évidemment.
Le monde du travail est un sujet fascinant. Quelle que soit notre profession, qu'on soit salarié depuis 30 ans, chômeur ou étudiant, nous avons toutes et tous un rapport, un avis, une vision du travail, de ce qu'il nous apporte ou de ce qu'il nous prend. Ce qui est certain par ailleurs, c'est que ces dernières années, ce monde du travail a connu de nombreux bouleversements. La pandémie de Covid-19, le télétravail démocratisé, la quête de sens et le besoin de reconversion qui ont saisi bon nombre de nos contemporains, tout ça a rebattu les cartes. Ce sont de ces changements et de ce qu'ils signifient dont on va parler dans cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Et pour en parler, j'ai eu envie de discuter avec Séverine Bavon. Elle est entrepreneuse et elle est aussi l'autrice d'une newsletter aussi passionnante qu'hilarante. Elle s'appelle CDLT. CDLT pour cordialement en plus court et on va en parler. Toutes les deux semaines, on y plonge dans tous les chambardements qui secouent le vaste monde du travail, parfois pour le meilleur, parfois quand même pour le pire. Une plongée motivée avant tout par le parcours de Séverine.
Après avoir été salariée dans la communication pendant un petit moment, j'ai changé de vie et j'ai fondé ma boîte, qui est une boîte dans le freelancing. Et en fait, en parlant beaucoup à des freelances, j'ai commencé à être confrontée à une vision assez radicalement différente du travail que celle que je connaissais. Et à me rendre compte que finalement, avec ces trois visions des choses, j'étais plutôt à la pointe d'une certaine transformation qui était en train de se passer. Et d'abord un petit peu comme une blague, et puis de plus en plus profondément, j'ai envie de parler de cette transformation qui est en train de se passer autour de nous. Et il y avait plusieurs raisons derrière ça. Et il y en a une qui était que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer aujourd'hui dans le rapport au travail, et que beaucoup de gens ont l'impression qu'ils sont les seuls à le vivre. Il y a beaucoup de questions sur le temps de travail, sur la reconversion, etc., que beaucoup de gens vivent comme des crises individuelles qui sont en fait systémiques. Et j'ai eu envie de petit à petit poser les mots sur ces choses-là pour montrer à beaucoup de gens qu'en fait, ce qui est en train de se passer est beaucoup plus large. Il y a eu, je pense que c'était très inspiré des États-Unis, un peu une idée que le travail allait être un endroit d'appartenance. Un endroit qui, il y a même Esther Perel qui en parlait dans un podcast qu'elle anime sur le travail, de l'idée que le travail remplaçait même la religion pour beaucoup de gens, et en offrant cette possibilité d'appartenance et finalement de valeur commune. Je pense que c'est quelque chose qui est assez différent déjà en France. Et je pense qu'effectivement, bien sûr, il y a eu un mouvement où le travail s'est réindividualisé, ne serait-ce que parce que, au global, les gens passent un peu moins de temps ensemble au travail. Mais je pense que ça s'est fait au profit potentiellement d'autres formes de collectifs, qu'en prenant un tout petit peu de distance avec le travail, les gens ont pu déjà passer potentiellement plus de temps avec leurs proches, avec leurs amis, avec leur famille, potentiellement aussi trouver d'autres lieux de collectif et d'appartenance. Et au fond, on est arrivé, je pense, dans un mouvement où les gens attendent de moins en moins du travail, ce qui les amène peut-être aussi à être de moins en moins déçus. Je pense que notre génération s'est pris une énorme claque. Moi, je surnomme les milléniaux la génération de la loose. Donc c'est la génération qui est plus ou moins trentenaire aujourd'hui. En fait, la génération d'avant avait des règles assez claires. Globalement, il fallait faire des bonnes études, on pouvait avoir un bon travail, on pouvait rester longtemps dans la même boîte. Si on travaillait bien, on avait de la gratification en échange, puis à la fin, il y avait la retraite. La génération d'après, elle, arrive dans un monde où c'est déjà un petit peu cassé. Donc elle a moins d'attentes et potentiellement, elle est plus exigeante. La génération qu'on est, c'est pour moi un peu une génération de transition. On est arrivé avec les règles d'avant, on nous avait dit ce qu'il fallait faire, ça n'a pas marché. On est arrivé pour beaucoup post-crise de 2008, donc on est arrivé dans un contexte où globalement on s'est pris pas mal de murs et de plafonds, et on s'est rendu compte que ces règles ne tenaient plus, qu'on avait été formé pour des jobs qui allaient disparaître, qu'on n'avait pas encore été formé pour tout un tas de boulots qui sont apparus bien évidemment avec le développement du numérique. Et en fait, que les règles n'avaient plus cours et qu'il allait falloir qu'on réinvente des règles et qu'on questionne notre rapport au travail. Et je pense qu'on se retrouve effectivement au milieu du guet. Et que, évidemment, on peut en blaguer, effectivement, autour de nous. A priori, il y a beaucoup de gens qui se reconvertissent pour devenir ébéniste ou prof de yoga. Il y a beaucoup de gens qui sont en doute, qui sont en questionnement. Et je pense qu'on le vit tous comme des crises un petit peu individuelles, alors qu'en fait, c'est systémique. On est vraiment la génération qui vit cette transition le plus intensément. Je pense que ces DLT, c'est un peu le symbole d'une culture du boulot qui s'avère un petit peu ridicule. Cordialement, en théorie, ça veut dire qu'il vient du cœur. Donc déjà, une signature de mail vient rarement du cœur. Et ces DLT, c'est quand on n'a même pas le temps de l'écrire en entier. C'est dire si ça vient du cœur, quoi. Et effectivement, sous couvert de gagner du temps ou d'être cool ou d'être plus efficace, on a un jargon qui est imbitable, on a des habitudes qui sont parfois assez insupportables. Et on ne va pas parler de LinkedIn, mais on peut en parler. Qui crée finalement, je pense, un monde du travail qui proclame des grands mots, des grandes valeurs, etc. et qui est en décalage, je pense, avec la réalité de ce qu'est le travail pour beaucoup de gens. Derrière toutes les belles notions, le happiness management et des choses comme ça, qu'on cache sous des mots, il y a parfois des réalités qui peinent à changer et à évoluer.
Et ça crée une espèce de dissonance cognitive dans notre génération d'être bombardé en permanence de ces espèces d'injonctions, de ces espèces de prétentions dont on investirait le monde du travail, et d'être en même temps absolument pas dupe de ce qu'elle dissimule. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens autour de nous qui soient convaincus que effectivement les happiness managers ça va sauver tout le monde, et que un baby foot dans la salle de pause ça vaut de passer 55 heures à son bureau. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de jeu de dupes et que personne n'en sort vraiment gagnant.
Non, et je pense que c'est en train d'évoluer. En fait, je pense que la dissonance qu'on vit aujourd'hui vient du fait qu'on hérite un petit peu de toutes ces notions qui sont globalement héritées de l'idée que voilà, il faut travailler dur, mais qu'en échange, on a un baby-foot où on va nous remercier beaucoup avec de la pizza. Et qu'aujourd'hui, en face de ça, on a des gens qui, je pense d'autant plus depuis la pandémie, ont réalisé que ça valait peut-être pas le coup. Qu'un baby-foot n'allait pas remplacer un bon salaire potentiellement. Et en fait, je pense que cette dissonance, on la sent beaucoup plus fort parce que justement, on est en train d'évoluer dans nos attentes au travail. Tu parlais d'être désabusé, je suis d'accord. Je pense qu'on est beaucoup plus conscient aujourd'hui de la partie bullshit de toutes ces notions-là. Et en fait, je pense que c'est parce qu'on est précisément dans une phase de transition entre les attentes des employeurs, les attentes des employés, et que je pense que ça va évoluer. Mais je pense qu'effectivement, ce ressenti-là, il est lié à cette dissonance. Je pense que le travail, c'est une équation. Qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je reçois en échange ? Et en fait, ce qui s'est passé pendant la pandémie, je pense, nous a fait réévaluer les termes de l'équation. On s'est retrouvé, ça paraît énorme de le dire aujourd'hui, mais on s'est retrouvé quand même à un petit peu confronté à la mort. À notre potentielle mort prochaine, beaucoup plus proche que ce qu'on avait imaginé. Et on s'est retrouvé aussi dans une phase de distorsion du temps. C'est assez marrant, il y a une étude qui a été faite au Royaume-Uni qui montre que 80% à peu près des gens ont vécu une distorsion du temps, mais que 40% ont eu l'impression qu'il s'est allongé, 40% ont eu l'impression qu'il s'est raccourci. Et en fait, je pense que pendant la pandémie, dans tout ce contexte-là, on s'est posé la question de ce qu'on faisait de notre temps, avec l'impression qu'il en restait potentiellement pas beaucoup. Et ajoutons à ça qu'il y a beaucoup de personnes qui, je pense aux Parisiens, se retrouvaient face à leurs conditions de vie et se sont rendus compte des conditions de vie qu'ils acceptaient pour pouvoir travailler. Ça, plus également le fait que, on s'est rendu compte que le télétravail, qui semblait illusoire, s'est avéré plutôt possible. Finalement, beaucoup d'entre nous sommes sortis de la pandémie avec l'idée de peut-être que ça valait pas le coup de passer autant de temps, de donner autant d'énergie, de potentiellement donner sa santé au travail, dans la mesure où, globalement, on n'avait pas forcément assez en échange, que globalement, on n'est pas 100% sûr d'avoir une retraite satisfaisante à la fin, et que peut-être, plutôt que d'attendre quelque chose après, il fallait finalement réévaluer les termes de l'équation, et peut-être donner moins au travail, en attendre un petit peu moins, et laisser plus de place à notre vie.
Est-ce qu'on n'a pas, malgré tout, assez vite réembrayé sur le mode de fonctionnement d'avant, pour beaucoup de métiers ? Est-ce qu'on n'en est pas, finalement, sorti avec l'impression que les choses allaient changer, et puis finalement... Ça n'a pas tant que ça changé.
Je pense que la transformation post-pandémie, elle est encore en cours. Effectivement, il y a eu, que ça soit individuellement à l'échelle des entreprises, une envie d'un retour à ce qu'on pensait être la normale. Et je pense que ce retour à la normale est impossible parce que trop de choses ont changé entre-temps. On le voit aujourd'hui avec la volonté de beaucoup d'employeurs de faire revenir les gens au bureau en se disant d'une certaine façon que ça va être comme avant. Je pense que ça ne le sera pas parce que dans tout ce qui a été amorcé de transformation, typiquement avec le télétravail, ce que le télétravail a permis pour énormément de gens, c'est de se rapprocher de leurs proches, de potentiellement faire d'autres choses dans leur vie. Et je pense que c'est ces questionnements qui sont nés lors de la pandémie, ces doutes potentiellement sur le rapport que chacun avait avec son travail, sont encore en train de mariner et sont en train de se déployer progressivement parce que c'est des transformations aussi qui peuvent prendre du temps.
À ce stade de la discussion, il faut qu'on fasse nécessairement un détour par ce qui fut l'un des grands thèmes de l'immédiat post-pandémie. Le risque de voir le monde du travail déstabilisé par une vague, un raz-de-marée, un tsunami baptisé la Grande Démission. Alors je vous invite à aller rechercher les articles et les unes de magazines qui s'en faisaient l'écho, c'est assez savoureux. Derrière ce terme, on nous promettait l'imminence d'un départ en masse de tout un tas de salariés et d'employés, des secteurs vidés de leur main-d'œuvre et une crise globale de l'emploi. La réalité n'a pas exactement été celle-là, mais je laisse Séverine Bavon, notre invitée, nous donner son sentiment sur tout ça.
La Grande Démission, ça... C'est apparu dans les chiffres aux États-Unis beaucoup plus qu'en France. Donc évidemment, comme toute chose venant des États-Unis, on a alerté sur le fait que ça allait arriver chez nous. Ça a été beaucoup moins clair dans notre cas. Je pense qu'on parle encore du quiet quitting, mais peut-être un peu moins de la Grande Démission. Mais en fait, ça a été un mouvement qui, justement, était hérité de la pandémie ou juste après la pandémie. Donc quand le marché du travail s'est remis à bouger, à être un tout petit peu plus mobile, énormément de gens ont quitté leur job, mais c'est presque aussi un rattrapage des jobs qu'ils n'ont pas pu quitter pendant la pandémie pour des raisons de sécurité aussi. Mais effectivement, il y a eu beaucoup d'alertes, notamment en France, sur l'idée d'une volonté d'arrêter de travailler ou d'arrêter de travailler autant. Moi, mon fer de lance, c'est le quiet quitting. Donc l'idée de la démission silencieuse où il y a beaucoup d'employeurs ou de RH qui disent que les gens sont en train silencieusement, discrètement de démissionner, c'est-à-dire de pas faire plus que le travail qui est attendu d'eux. Et moi, c'est quelque chose qui m'agace énormément, parce que ça veut dire qu'avant, on attendait d'eux qu'ils fassent plus que le travail pour lequel ils étaient payés. Et on a l'impression que maintenant, ils se désengagent et ils démissionnent silencieusement juste parce qu'ils font le travail qui est dans leur contrat de travail. Au fond, pour moi, c'est moins un mouvement guerrier de quitter le travail ou travailler moins que ce qu'il faudrait, que juste un mouvement de rééquilibrage. Et de c'est pour ça que je suis payée, c'est les heures pour lesquelles je suis payée, je vais faire ces heures-là, pas plus, parce que en échange, moi, ce que ça me donne, c'est potentiellement moins de stress, moins de soucis de santé et plus de temps pour la vie.
Tu parlais de redéfinir les termes de l'équation justement qui nous lie au monde du travail. J'ai l'impression qu'un des acteurs qui n'est pas trop en mesure ou qui n'a pas trop envie de remettre cette équation en jeu, ce sont justement les employeurs. J'entends par là les grands employeurs, les grandes entreprises, ceux qui emploient beaucoup de gens qui, j'ai l'impression, ont beaucoup de mal à conceptualiser même le fait que le rapport au travail a changé.
Je pense qu'elles sont en train de le faire par la force des choses. C'est un processus qui est lent. Je pense qu'il y a énormément de mouvements qui, évidemment, voudraient qu'on revienne comme avant, typiquement le retour au bureau. Mais je pense qu'elles sont en train de réaliser pour beaucoup qu'elles n'ont pas vraiment le choix. La pénurie de talent était quelque chose qui s'annonçait depuis très longtemps, mais qui a été grandement accéléré par les questionnements de la pandémie. Et en fait, face à cette pénurie de talent, cette difficulté à recruter et à retenir les talents, qui sont des choses qui sont extrêmement coûteuses, pour les entreprises, elles sont forcément en train de re-questionner ce qu'elles proposent aux talents. Ça prend du temps, c'est complexe et compliqué. Parfois, c'est des questions qui sont difficiles à résoudre parce qu'on se parle de mieux payer les gens, on se parle de potentiellement leur offrir la flexibilité dont ils ont besoin. C'est des choses qui sont très complexes à mettre en œuvre à une grande échelle. Mais je pense que ce mouvement est en marche sous une myriade d'impulsions individuelles parce qu'à terme, les entreprises n'ont pas le choix. Oui, on parle beaucoup d'une inversion du rapport de force. La génération des milléniaux est arrivée sur le marché du travail avec l'héritage de l'idée que le Graal, c'était le CDI, que c'était formidable qu'on nous donne du travail. Et aujourd'hui, on est en train de devenir, globalement, en tout cas pour ceux qui peuvent se le permettre, parce que bien évidemment, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais on est en train de devenir plus exigeant envers le travail, avec justement dans des secteurs qui ont du mal à recruter, la force de savoir qu'on a du pouvoir face aux employeurs, ce qui permet de pouvoir demander plus de choses. Et effectivement, c'est un changement culturel qui est assez radical, même si évidemment, il ne faut pas exagérer ce pouvoir-là. Mais c'est un changement culturel qui est assez radical. Ouais.
C'est quoi les prochains sujets, les prochaines éditions, on va dire, de cette newsletter?
Il y a deux sujets assez radicalement différents que j'ai envie d'aborder. L'un des prochains sera sur les émotions dans le cadre du travail. Je pense que le monde du travail dont on a hérité est un monde du travail dans lequel les émotions sont sales. Je pense que le symbole de ça, c'est l'idée de pleurer aux toilettes. Il faut absolument se cacher pour exprimer ses émotions. On a hérité pour ça de l'idée que le management devait être froid et distant et que trop d'émotions n'étaient pas bon et que montrer ses émotions faisait de nous quelqu'un de faible. Et je pense qu'on se heurte beaucoup à ça aujourd'hui. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de sujets comme le burn-out ont été finalement ont mis beaucoup plus de temps en France à émerger parce qu'on laisse pas forcément de la place au sujet de l'émotion dans le travail. Et le deuxième est beaucoup plus sérieux, qui est le sujet de la santé au travail. C'est un énormissime sujet, bien sûr, parce qu'évidemment, il y a le sujet de la santé mentale au travail, qui est un énorme tabou français. Mais il y a aussi le sujet de la santé physique, de ce que le travail fait aux gens et de la façon dont on peut les protéger. Et je pense que c'est un sujet qui est absolument clé, parce que on en parlait à une époque, on pensait que c'était une chance d'avoir un travail, mais comme il y a le mal logement, il y a le mal travail. Il y a des jobs qui font du mal aux gens et il y a énormément de gens qui peinent même à arriver à la retraite. On commence à mettre des mots sur beaucoup de choses. Typiquement, moi je suis assez convaincue que le burn-out existait très longtemps avant qu'on mette un mot dessus. On appelait ça une dépression nerveuse, un craquage ou juste un arrêt maladie.
Du surmenage.
Je pense que ça existait depuis très très longtemps avant et je pense qu'aujourd'hui on est en train de mettre des mots sur des situations qui nous permettent de nous rendre compte qu'on n'est pas seul. Moi c'est un travail que j'essaye de faire beaucoup, d'essayer de mettre des mots. Je parle du syndrome de l'imposteur, du rapport à l'ambition, de choses qui sont des transformations qu'on vit tous. Et qui finalement sont beaucoup plus communes que l'impression qu'on peut en avoir. Et je pense qu'effectivement, on parlait justement du fait que le travail devient peut-être moins collectif dans le cadre d'une entreprise. Mais je pense qu'effectivement, il est probable qu'on soit en train de développer une culture collective du rapport au travail qui est à la fois potentiellement un rejet du bullshit du travail, un partage aussi autour des difficultés du travail qui étaient peut-être plus tabous avant, et qu'on est finalement collectivement en train d'entamer énormément de réflexions sur notre rapport au travail.
Merci à Séverine Bavon pour ses réponses. Sa newsletter, je le redis, elle s'appelle CDLT. Je ne peux que vous inviter à aller vous y abonner. C'est gratuit. On la trouve à l'adresse cdlt.kessel, ça s'écrit K-E-2-S-E-L.media. Le lien est évidemment à retrouver dans la description de cet épisode qui a été réalisé par Paul Berthiaud. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.